Pas là ce soir pour entendre Alain Joacquier, un message qui viendrait de lui, de lui-même, pas du tout. Le message que j'ai maintenant à cœur de vous faire entendre, je le tire dans ce livre qui s'appelle la Bible, et nous lirons deux textes. Le premier dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, et des versets 18 à 22. Et un second texte que je citerai de mémoire par la suite. Nous lisons donc le premier texte en 2 Corinthiens 1, 18. L'apôtre nous dit ce qui suit. « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui de Dieu. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » J'aimerais reprendre un texte sur lequel j'insisterai surtout à la fin du message. Ce texte se situant au verset 20e. « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'est le oui de Dieu. » Et puis de mémoire, un autre texte en Éphésiens 2, 8. Ceci signifie que ce texte se trouve au deuxième chapitre de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens et au verset 8e. L'apôtre dit ce qui suit, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Peut-être vous posez-vous la question de savoir pourquoi ce sujet que nous avons choisi pour ce soir. Religion ou relation ? Il faut dire que j'ai très à cœur ce thème un peu partout où je passe, je le propose. Parce qu'il se fait malheureusement que des milliers d'hommes et de femmes sur la terre aujourd'hui, bien qu'ayant une religion précise, une religion chrétienne, n'entretiennent aucune relation, aucune vraie relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé à un tel titre. Et la plupart du temps, quand j'ai l'occasion de rendre mon témoignage, où que ce soit, eh bien, je parle de ma relation personnelle avec Jésus-Christ. Et j'ai constaté que c'est souvent cela qui frappe, impressionne. Je ne présente pas ma religion, mais je parle de ma relation personnelle et vivante et quotidienne avec Jésus-Christ. Il y a quelques années, me trouvant au Québec pour une campagne d'évangélisation, très exactement dans la ville de Sherbrooke, la télévision m'avait fait appel pour un en direct, une ligne ouverte avec la population. Et au cours de cette ligne ouverte, je reçus énormément de questions, et entre autres questions, la suivante, d'une dame, très directe. « Dites-nous, M. Joacquier, qu'êtes-vous venu faire dans notre belle province du Québec ? Nous prêcher une nouvelle religion, n'est-il pas vrai ? » ?»« Ah non, madame, mais pas du tout, avez-vous lu ça quelque part ? » ?»« Non, mais enfin, je le devine, je le suppose. » »« Eh bien non, madame, je ne prêche pas une nouvelle religion. Vous nous venez de loin, M. Joacquier. Pourquoi ? C'est bien une religion que vous prêchez. Non, madame, là encore, je n'ai pas de religion à prêcher. Mais enfin, vous parlez de Dieu, monsieur Joachim. Ah oui, je parle de Dieu et de Jésus-Christ. Mais en parlant, vous parlez aussi, c'est irrésistible, de votre religion. Bien non, madame. Oh, dites-nous, monsieur Joachim, vraiment, soyez sincère, honnête, ne nous cachez rien. Dites-nous ce que vous prêchez. Eh bien, madame, je vais vous le dire. Je ne prêche pas une religion, nouvelle religion, je prêche une relation. Une relation. Alors là, M. Joacquier, je vous comprends de moins en moins, et il y a la bonté de vous expliquer. Vous prêchez une relation. Eh bien oui, j'invite tous ceux et celles qui viennent aux conférences du soir, je les invite non pas à changer de religion, ni à embrasser ma religion, je les invite à entrer dans une relation personnelle, vivante, avec Jésus-Christ. Madame, vous qui me questionnez ainsi, avez-vous l'expérience d'une telle relation ? Entretenez-vous tous les jours un contact, une relation avec votre Sauveur. Écoutez, monsieur, je ne vois pas de quoi vous parler. C'est la première fois qu'on me tient de tels propos. Eh bien, je vous invite à la conférence du soir pour davantage d'explications à ce sujet. C'est peut-être la question que je vous poserai à vous qui êtes venu ce soir si gentiment. Oh, je ne vous demanderai pas quelle est votre religion, mais je vous demanderai si ce soir votre religion consiste dans une relation vraie avec le Christ, avec Dieu. Et c'est vrai que des milliers de personnes, bien qu'ayant une religion, n'entretiennent pas de relation avec Dieu, avec le Christ, sur un plan personnel. Notre dictionnaire Larousse et d'autres dictionnaires d'étymologie nous font savoir que les mots religion, relation, relié, tout cela a même racine. Et qu'en réalité, la vraie religion, c'est celle qui consiste dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et il se peut qu'il y ait là, dans ce lieu ce soir, quelqu'un qui ait une religion, qui la pratique même, comme on dit, mais qui, alors, se demande de quoi nous parlons quant à cette relation sur un plan personnel avec Dieu et avec Jésus-Christ. Oh, j'aimerais vous dire que ce qui m'a conduit au Christ il y a maintenant un peu plus de 26 ans n'a pas été de beaux discours, mais simplement le témoignage d'un homme qui m'a parlé de sa relation personnelle avec Jésus-Christ. Ça se passait sur un terrain de volley-ball. Voilà donc 26 ans de cela. Cet homme que vous avez peut-être deviné, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Si tu veux aller loin », Ralph Challis, cet homme m'a parlé du Christ pour la première fois, mais non pas de quelqu'un dont il avait lui-même entendu parler, mais de quelqu'un qu'il connaissait, dans une relation vraie, dans une rencontre vraie, dans une rencontre de tous les jours. Voilà ce qui me fit impression. Non pas du tout de beaux discours, mais un homme qui me parlait de sa relation personnelle. Et le Christ était devenu son ami de tous les jours avec lequel il avait fait sa vie et avec lequel il cheminait depuis sa conversion. J'étais alors étudiant et j'avais désiré en savoir davantage sur la question. J'allais le voir chez lui et le Christ me semblait réellement présent dans sa maison, mais partout, dans ce qu'il disait. Et puis la façon dont il me recevait, la façon dont il me parlait de son ami, tout cela a fortement joué dans ma conversion. Amis chrétiens, nous qui sommes ici ce soir, qui avons suivi les enseignements de la convention, savez-vous que ce qui impressionne le plus ceux du dehors, ce ne sont pas nos discours, nos paroles, ce qui les impressionne, c'est lorsque nous leur parlons de notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Ce Christ que nous avons reçu dans notre cœur, que nous avons reçu dans nos maisons, dans nos foyers. Ce Christ avec lequel nous sommes en contact quotidiennement. Cette relation dans laquelle nous puisons nos ressources pour aller de l'avant chaque jour. Religion ou relation ? Bien sûr que la relation dont il est question ce soir se situe sur le plan de la foi. C'est la foi qui nous ouvre à cette relation avec le Christ, avec Dieu. Mais dès qu'on évoque la foi, alors la question nous revient presque irrésistiblement. Dites-nous de quelle foi vous nous parlez ? Parce qu'il y a la foi protestante, il y a la foi catholique, Il y a la foi baptiste, il y a la foi méthodiste, il y a la foi salutiste, il y a la foi darbiste, il y a la foi... Dois-je continuer, hein? Et nous voilà en pleine crise de foi, ne sachant pas dans quelle direction regarder, dans quelle direction donner. Eh bien, la foi qui nous introduit à cette relation avec le Christ, c'est la foi tout court. C'est cette foi qui vient en nous, qui naît dans nos cœurs à la lecture de la parole de Dieu, ou à l'écoute du message de l'Évangile, selon qu'il est écrit en Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, c'est la foi qui nous introduit à cette relation, qui nous y installe. Pour le temps présent, la Bible enseigne que seule la foi peut nous donner accès à Dieu. Certains voudraient aller à Dieu par un autre chemin, par une autre voie que celle de la foi. Cela, bien sûr, tourne en rond et se perd dans toutes sortes de directions et dans toutes sortes de labyrinthes. J'aime bien ce commandement qui dit, et surtout dans une version catholique, « Tu ne prononceras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Cette version catholique, dont je ne me souviens plus du nom, dit « Tu ne prononceras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, sans la foi. » Parce que la foi appelle Dieu, Dieu appelle la foi. Pour le temps présent, nous ne pouvons aller à Dieu que par la foi, dans la foi. Les choses changeront au jour du retour du Christ, au jour de la résurrection des croyants. Mais pour ce qui est de maintenant, du temps présent sur la terre, il n'est que la foi pour nous introduire à Dieu. Cette foi qui se fonde sur l'Écriture et qui regarde au Christ. Eh bien, c'est cette foi-là qui nous installe dans cette relation avec le Christ. C'est cette foi-là qui nous rend le Christ vrai, qui nous fait en quelque sorte, qui nous permet de le toucher, de l'approcher. Et la Bible dit encore en Hébreux 11, 6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, de telle manière que ce soir dans ce lieu, il n'y a que deux sortes d'hommes, pas 36, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui sont agréables à Dieu et ceux qui ne lui sont pas agréables. Oui, il n'est que la foi qui puisse réellement réjouir le cœur de Dieu. Dieu aime trouver la foi dans le cœur de l'homme. Quand le Christ était sur la terre, il y a 2000 ans, foulant aux pieds le sol de la Palestine, c'est à lui qu'il appelait les gens, les hommes, les femmes, à sa personne. Il ne les a jamais appelés à sa religion, mais à une relation, un contact avec lui-même. Ainsi a-t-il dit aux Juifs, par exemple, qui lui résistaient, en Jean 5, 40, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Nous nous souvenons aussi qu'il a dit en Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, etc. C'est donc à lui, à sa personne, qu'il a toujours appelé. Et lorsque j'ai répondu à l'appel du Christ, c'est une personne que j'ai rencontrée, qui est entrée dans mon cœur et dans ma vie. Nous nous souvenons aussi qu'à cette Samaritaine qui lui présentait sa religion, eh bien le Christ a répondu en lui présentant sa personne, ce Messie dont tu parles, eh bien je le suis, moi qui te parle. Il est donc important que ce soir nous fassions le point, à savoir si nous nous contentons simplement d'une religion morte, poussiéreuse, moyenâgeuse, qui ne nous apporte rien, ou si notre christianisme consiste réellement dans une relation personnelle vivante, une relation d'amour avec le Christ, avec Dieu lui-même, une relation d'amitié, une relation un peu comme celle d'un enfant avec son père, d'un père avec son enfant. Et c'est cette relation que la Bible offre à quiconque la veut. En tout cas, pour ce qui me concerne, à lire la Bible ou à l'étudier, je vais toujours à la rencontre de mon Sauveur. Nous nous souvenons de cette parole de Rubin Sayens, auquel nous devons ces conventions, qui disait, Le Christ est tout entier dans la Bible, tout entière. Et quand on lit la Bible, eh bien, c'est à sa rencontre qu'on va, de tout son cœur, de toute son âme. Je vais vous dire qu'en tout cas, pour ce qui me concerne, quand je lis la Bible, quand je l'étudie, je suis toujours là à chercher à connaître davantage mon Sauveur, qui m'a rencontré voilà 26 ans et que j'apprends toujours à connaître à la lecture de son livre. Oui, la Bible, l'Évangile en particulier, a pour souci majeur de nous présenter un visage à connaître, une personne à rencontrer. Et la Bible n'est pas tant un livre dans lequel des hommes nous parlent de Dieu, nous livrant comme ça le fruit de leur réflexion, de leur cogitation sur ce qu'ils pensent de Dieu. Pas du tout. La Bible donc n'est pas tant un livre dans lequel des hommes nous parlent de Dieu, c'est surtout et avant tout un livre dans lequel Dieu parle des hommes et de lui-même. Un livre dans lequel il se fait connaître, se révèle. Il y a quelques années, quand j'étais président de France Mission, j'avais une secrétaire. Cette secrétaire écrivait mes lettres, les tapait à la machine. Mais ces lettres qu'elle écrivait restaient mes lettres. Bien qu'elle les écrivait. Et il ne s'est jamais trouvé personne, parce que ma secrétaire écrivait mes lettres, pour me répondre par exemple, eh bien merci Monsieur Joaquier du courrier que je viens de recevoir de votre secrétaire, etc. Mais non, ces lettres restaient les miennes, bien que c'était ma secrétaire qui les écrivait. Et ma secrétaire à l'époque n'écrivait que ce que je lui dictais ou inspirais d'écrire. Ah si ma secrétaire s'était mise à écrire n'importe quoi, hein, sur moi-même, ou sur France Mission, je n'aurais pas pu la garder, j'aurais été obligé de m'en séparer. C'est un peu ce qui s'est passé avec Dieu et avec ces hommes qu'il a inspirés pour qu'ils nous transmettent ses paroles, son message. Et puis, pourquoi ne prendrait-il pas, lui, le patron de la vie, le patron des univers et des mondes? En fait, il est patron. Pourquoi ne prendrait-il pas, lui, des secrétaires, les prophètes, les apôtres, auxquels il a précisément dicté son courrier aux hommes? Et ce livre n'est autre chose que le courrier de Dieu à l'homme d'aujourd'hui. J'ai conscience tous les jours, lorsque je lis ma Bible, que je suis en présence du courrier que Dieu m'adresse. Et quel courrier, quel message! Ah, ce livre présente bien plus que des lignes. Et je dirais même, bien plus et mieux qu'une doctrine. Il présente une personne à rencontrer. Et si nous ne la rencontrons pas, cette personne, nous passons à côté du but que Dieu s'est fixé pour nous en nous dictant ce courrier. Parce que dans ces lignes, derrière ces lignes, entre ces lignes, il y a bien mieux qu'une intelligence supérieure, qu'une cause première ou qu'une existence fondamentale. Il y a un cœur qui bat pour nous. Un cœur à découvrir, un visage à découvrir. Ceci me fait penser au temps que j'ai pu passer sous les drapeaux en Algérie pendant mon service militaire. Mais avant d'être envoyé en Algérie, c'était pendant la guerre. Savez-vous ce qu'avec ma fiancée, qui est aujourd'hui ma femme, nous nous étions promis? Y a-t-il ici des jeunes qui sont fiancés? Est-ce qu'ils pourraient lever la main, par exemple? Mais il y en a plusieurs, ceux-là me comprendront sûrement. Eh bien, avec Jeanne, figurez-vous, nous nous étions promis de nous écrire tous les jours. Il faut le faire, hein. Il ne faut pas avoir le poignet foulé, ni un poil dans la main. Et tous les jours, je recevais une lettre de Jeanne. Tous les jours, elle recevait une lettre de moi. Mais quelle présence que ces lettres dans ma solitude militaire à l'époque. Et dès que j'avais ces lettres en main, qu'est-ce que j'en faisais, Bien sûr, je courais dans ma chambre et là, je les ouvrais très rapidement, très fébrilement, et je me mettais à les lire, ces lettres, les lettres de Jeanne. Oui, je les lisais, mais de tout mon cœur, de toutes mes forces, je les dévorais, littéralement. Sans avaler le papier, bien sûr, vous l'avez compris, mais je les dévorais. Ces lettres d'amour, ces lettres où elle me faisait part de ses problèmes, de ses difficultés, de ses joies. Et qui peut me dire ici ce que je cherchais dans les lettres de Jeanne? L'amour. Et puis encore. Merci. Bien sûr que dans les lettres de Jeanne, je cherchais Jeanne. Comprenez, c'est clair, c'est... Je cherchais Jeanne. Et bien de cette même manière, il faut lire la Bible. À sa lecture, il nous faut absolument rencontrer son auteur, celui qui nous l'adresse. C'est ainsi, mais il ne sait, par exemple, jamais trouvé un jour où, lisant ses lettres, j'ai voulu lui répondre, tu sais, Jeanne, il faudrait que tu revoies ta grammaire. Vraiment, parce que tes fautes de construction de phrases, tes fautes de syntaxe, et même tes fautes de vocabulaire, mais c'est une vraie catastrophe. Je peux vous dire que ce genre de choses ne m'intéressait pas, encore qu'avec la Bible, je peux vous dire qu'elle est inspirée de Dieu et qu'elle dit la vérité. C'est un livre qui ne trompe pas, qui ne cherche pas à tromper, c'est un livre qui dit la vérité et qui est entièrement inspiré de A à Z. Sans aucune erreur au niveau, bien sûr, de ses originaux. Eh bien non, je ne faisais absolument pas attention aux fautes que Jeanne pouvait faire, et je suppose que de son côté, c'était de même. Et si un jour je lui avais écrit en lui disant, tu sais Jeanne, revois quand même ta grand-mère, ta grand-mère, et fais attention, je crois qu'elle m'aurait dit, eh bien écoute mon cher, reste où tu es. Et si elle m'avait fait de même remarque, je lui aurais fait une même réponse. Hein. Je cherchais donc Jeanne dans ce qu'elle pouvait m'écrire. Et toutes les fois où précisément je lisais son courrier, je la rencontrais. Son amour, comme j'ai entendu par là. Elle-même, comme j'ai entendu de ce côté. C'est ainsi qu'il faut lire ce livre. De tout son cœur. Et quand je dis cœur, je ne veux pas du tout dire de manière sentimentale. Nous ne sommes pas des sentimentaux, hein, pas du tout. En parlant de cœur, eh bien je parle de nos profondeurs, de façon véritable. Ce qui, bien sûr, parle aussi de volonté, de raison aussi. Hein. C'est ainsi qu'il faut lire la Bible. Et quand on la lit de cette manière-là, à tous les coups, la rencontre se fait. Elle a lieu. Avez-vous rencontré le Christ, mes amis? L'avez-vous rencontré? De façon personnelle, est-il entré dans votre vie, dans votre cœur? Vous êtes-vous refait une existence avec lui? Où en êtes-vous ce soir, pour ce qui vous concerne, vous tout seul, vous toute seule? Il se trouvait un jour, paraît-il, dans un cercle de gens bien, toutes sortes de personnes. Il y avait là un poète, un homme de science, un homme de lettres, un pasteur, et d'autres personnes encore aussi illustres que les premières. Et ces personnes, un jour réunies, décidèrent qu'à tour de rôle, elles liraient aux autres les beaux versets du psaume 23e, qui les connaît. Comment commence-t-il? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Et ces personnes, les unes après les autres, donc, avec le plus de cœur, le plus de lyrisme possible, se mirent à lire ces beaux versets, et quand le dernier fut entendu, tous tombèrent d'accord pour dire que ce fut le poète qui sut dire ces beaux versets de la meilleure façon. Oui, le poète. Mais le pasteur, pour sa part, semblait connaître bien plus que le psaume lui-même. Quoi donc? Le berger du psaume. Le berger du psaume. Quand on pose la question généralement, mais avez-vous la Bible chez vous? Avez-vous lu l'Évangile? On nous répond presque constamment, mais oui, nous avons cela depuis des générations. Nous savons de quoi il s'agit. Nous avons les Saintes Écritures chez nous. Mais avez-vous rencontré la personne que ces Saintes Écritures vous proposent de rencontrer? Vous proposent de connaître la vie éternelle, dit Jésus, dans une prière à son Père en Jean 17. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous nous souvenons encore, à propos de cette Samaritaine, qu'elle adorait un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Que d'hommes et de femmes adorent aujourd'hui un Dieu qu'ils n'ont jamais rencontré, qu'ils ne connaissent pas. Connaissez-vous votre Dieu, ce Dieu que vous adorez peut-être chaque dimanche matin? Entretenez-vous avec lui une relation vraie. Pourriez-vous, par exemple, parler du Christ à quelqu'un d'autre, de vos amis, de vos relations, comme de quelqu'un que vous connaissez personnellement, avec lequel vous avez fait votre vie, votre existence, qui remplit votre cœur, quelqu'un avec lequel vous cheminez chaque jour, auquel vous dites vos joies, vos peines, vos souffrances. Il faut absolument faire le point à cet égard. Que d'hommes et de femmes nous disent « Mais nous connaissons la Bible, nous l'entendons très souvent. » Jésus a dit aux Juifs, en Jean 5, 39, « Vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles et par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » En d'autres termes, Jésus a voulu leur dire, « Mais ce sont elles, les Écritures, qui me présentent à vous, qui m'offrent à vous, pour que vous me rencontriez. » J'ai failli vous lire, au début du message, les textes d'Actes 17, où l'apôtre Paul annonce l'évangile aux Athéniens, leur disant, « Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. » Après leur avoir dit, « Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux », il précise que ces mêmes Athéniens ont affaire à un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et quel dommage. Un certain 13 août 1960, voilà donc 17 ans de cela, cette jeune fille dont je vous parlais tout à l'heure, Jeanne, ma femme, et moi échangions quelques instants nos « oui » devant un maire de la région parisienne. À Saint-Mandé, très exactement. Et là, devant monsieur le maire, toutes sortes de questions nous furent posées. Et c'est avec moi que le maire commença.